Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu pour la fête de l'Épiphanie. Jésus ayant été enfanté à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici que des mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem et disent
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous venons nous prosterner devant lui. »
Entendant cela, le roi Hérode est troublé et tout Jérusalem avec lui. Ayant rassemblé tous les chefs des prêtres et les scribes du peuple, il s'informe auprès d'eux où le Messie est enfanté. Ils lui répondent
« À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem de Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël mon peuple. »
Alors Hérode, ayant appelé les mages en secret, se fait préciser par eux le temps où l'étoile est apparue. Puis il les envoie à Bethléem en leur disant
« Allez vous renseigner avec précision sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. »
Ayant entendu le roi, ils partent. Et voilà que l'étoile qu'ils ont vue à l'Orient les précède, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus du lieu où est le petit enfant. En voyant l'étoile, ils se réjouissent d'une fort grande joie. Allant dans la maison, ils voient le petit enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternent devant lui. Ils ouvrent leur coffret et en sortent des présents, or, encens et myrrhe. Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnent leur pays par un autre chemin.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges.
Alors nous voilà à la fête de l'Épiphanie, et ce récit de l'évangéliste Matthieu est bien connu, cette visite des mages à Bethléem, mais dont nous ne retenons peut-être bien souvent qu'un côté un peu folklorique, c'est-à-dire l'apparition d'une étoile un peu mystérieuse et qui va conduire trois rois mages à la crèche du roi des cieux.
Justement, Georges, est-ce que nous pouvons en savoir plus? Quelle est la signification de cette histoire dans le récit évangélique? Quelle peut en être la signification aujourd'hui pour nous chrétiens de l'an 2000?
Bien d'abord, il faut se rappeler que l'Évangile et l'Évangile de Matthieu a souci de montrer que Jésus va accomplir les écrits bibliques. Dans les chapitres de l'enfance dans lesquels nous sommes, les deux premiers chapitres de Matthieu, la généalogie va situer Jésus comme le descendant de David et roi Messie comme David. Et cela sera suivi de 5 tableaux, tous illustrés par un texte de la Bible. D'abord, la conception virginale va être illustrée par un texte d'Isaïe. La visite des mages, nous le verrons, par un texte de Michée. La fuite en Égypte par un texte du prophète Osée. Le massacre des innocents par un récit de Jérémie. Et enfin, le retour à Nazareth sera illustré avec une citation attribuée de manière vague au prophète. On l'appellera Nazaréen. Matthieu ne fait pas un récit descriptif de l'enfance de Jésus à la manière des journaux d'aujourd'hui. Il nous fait plutôt une lecture du destin de Jésus. Il éclaire la vie de Jésus à la lumière de l'histoire d'Israël. Et cela, d'ailleurs, cette lecture va être faite après Pâques, et donc elle va de toute manière être colorée par la foi en la résurrection de Jésus. Dans les années qui ont suivi la mort de Jésus, il faut se souvenir que les chrétiens, les premiers chrétiens, vivent dans un milieu qui leur est hostile. Les milieux juifs souvent rejette les chrétiens qu'il considère comme une secte hérétique. Et donc dans un tel contexte, il va être important de montrer la continuité qu'il y a entre le début de cette église et les textes bibliques du peuple d'Israël. Et pour cela, Matthieu souvent va employer une méthode qui est traditionnelle dans l'enseignement juif et qu'on appelle le Midrash. Le Midrash, c'est un commentaire de la Bible, un commentaire qui va rendre actuel un fait, un événement ancien, une parole même prononcée autrefois, et cela pour bien démontrer que cette parole de Dieu est toujours vivante et qu'elle revit dans des situations nouvelles, qu'elle donne le vrai sens de ce qui est vécu aujourd'hui. Jésus va donc vivre et réaliser dans toute sa vie ce que les écrits bibliques ont décrit comme concernant le peuple d'Israël. Un petit exemple, le peuple a connu autrefois l'oppression de peuples ennemis et l'exil, Babylone, l'Égypte, etc. Il en est de même dans la vie de Jésus enfant. Et la suite de notre texte va décrire la fuite de Joseph et de sa famille en Égypte, et cela pour éviter la cruauté du roi Hérode, qui va décider de massacrer tous les enfants nouveau-nés de Bethléem. Eh bien, cela sera mis en parallèle avec l'histoire de Moïse et les meurtres que le pharaon va commettre pour empêcher Israël de grossir, de grandir, eux qui prolifèrent, j'allais dire, ils pratiquent ce qu'on pourrait appeler la revanche des berceaux.
Jésus a vécu à Nazareth. Les récits évangéliques de Marc et de Jean ne parlent pas de sa naissance à Bethléem. Même dans Matthieu et dans Luc, il n'y a que les chapitres de l'enfance qui parlent de Bethléem. Pourquoi faire naître Jésus à Bethléem?
Eh bien, même si les deux généalogies de Jésus que l'on trouve en Luc et en Matthieu ont des différences sur plusieurs points, elles sont pourtant toutes les deux unanimes sur l'appartenance de Jésus à la dynastie de David. Dans les chapitres de l'enfance aussi, en Luc, l'ange annonce à Marie que l'enfant qui naîtra d'elle va recevoir le trône de David, son ancêtre. Si Joseph et Marie doivent aller à Bethléem, eh bien c'est la conséquence de l'appartenance de Joseph à la famille de David. Ils doivent se faire recenser dans cette petite bourgade de Bethléem où David, 10 siècles plus tôt, a reçu l'onction royale des mains de Samuel. Dans ce récit de Matthieu, c'est autour d'une citation biblique qui concerne Bethléem qu'est organisé le récit de la visite des mages.
« Et toi, Bethléem de Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. »
Au 8e siècle avant Jésus, le prophète Michée chante effectivement la gloire future de la dynastie de David. Or, il vit dans une époque où les injustices sont criantes, elles creusent un fossé toujours plus grand entre une élite qui s'enrichit et un peuple qui s'appauvrit. On pourrait lire quelques passages de Michée où il s'insurge contre cette injustice.
« Malheureux ceux qui projettent le méfait !» Ils manigancent le mal. Convoitent-ils des champs, ils les volent. Des maisons, ils s'en emparent. Ils se saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage.
Et à cause de ces injustices qui sont une infidélité à la Torah, à l'enseignement de Dieu, le prophète Michée va annoncer la ruine de Jérusalem.
Écoutez, chef d'Israël, qui bâtissez Jérusalem dans le sang et dans le crime. Ces chefs jugent pour un pot de vin. Ces prêtres enseignent pour un profit. Ces prophètes pratiquent la divination pour de l'argent. Jérusalem deviendra un monceau de décombres et la montagne du Temple un lieu de broussailles.
Oui, mais malgré cette annonce de la ruine de Jérusalem, le prophète annonce que la petite cité de David, Bethléem, même si elle est une toute petite bourgade, va être la cité qui va redonner à Israël un chef, un messie qui sera selon le cœur de Dieu.
Le Seigneur Dieu abandonnera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Le roi se dressera et fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur Dieu. Lui-même sera la paix.
Oui, on retrouve ici un thème qui est dominant dans toute la Bible. Le petit, l'humble, est celui qui porte le mieux la puissance du Seigneur. Rappelons cette parole de l'apôtre Paul qui s'entendra dire par Jésus
« Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. »
Eh bien, ce texte de Michée qui date du 8e siècle sera toujours repris dans l'histoire juive par les commentateurs pour décrire le lieu de naissance du Messie dans l'humble cité de David, Bethléem. On voit donc pourquoi nos auteurs veulent présenter la naissance de Jésus à Bethléem.
Nous sommes en train de nous préparer à la fête, à fêter le deuxième millénaire. Ce texte nous apprend-il quelque chose de l'année de naissance de Jésus?
Eh bien, on nous dit que cela a eu lieu au temps du roi Hérode. Or, Hérode est mort à une date qui correspond à l'an 4 avant la naissance de Jésus. Alors, il faut se souvenir que c'est seulement au 6e siècle que l'on a établi le calendrier qui est le nôtre aujourd'hui, qui part de la naissance de Jésus. Autrefois, on datait les années à partir de la fondation de Rome. Et le moine Denis, au VIe siècle, eh bien, a commis sans doute une erreur de datation, et il faut donc faire naître Jésus 4 ou 5 ans avant le début de notre ère. Mais l'importance du récit n'est pas ici une question de date. Il nous faut plutôt bien comprendre la pensée de Matthieu. Son intention est de montrer l'opposition entre le roi Hérode et l'attitude des mages.
Le roi Hérode est troublé et tout Jérusalem avec lui. Ayant rassemblé tous les chefs des prêtres et les scribes du peuple, il s'informe auprès d'eux où le Messie est enfanté.
Oui, le roi, les responsables de la vie religieuse du peuple de Dieu, c'est-à-dire les grands prêtres et les scribes, qui sont les interprètes attitrés de la pensée de Dieu dans la Torah, eh bien, cette élite ne va pas accueillir Jésus, le roi Messie choisi par Dieu. Ce seront au contraire des païens, des étrangers, qui vont aller se prosterner devant lui.
Qui sont ces mages et d'où viennent-ils?
Eh bien, on dit qu'ils viennent d'Orient et le peu d'indications que nous donne le récit de Matthieu peut peut-être signifier qu'ils étaient bien connus des premiers chrétiens. On n'avait pas besoin de les décrire davantage. Alors ce sont des gens qui sont à la fois mi-savants, mi-magiciens. Ils pratiquent la divination, la médecine, l'astrologie, les interprètent les songes. Alors d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils sont des Perses? Est-ce qu'ils sont des Babyloniens? Est-ce qu'ils viennent d'Égypte ou d'Arabie? La plus sérieuse hypothèse, pour autant qu'on puisse s'y accrocher, est qu'ils venaient de Perse et qu'ils étaient peut-être des adeptes d'une religion qu'on appelle la religion de Zarathoustra. Or, c'est cela qui est intéressant. Cette religion enseignait la croyance en deux principes éternels, le bien et le mal, entre lesquels il y a une lutte perpétuelle pour la domination du monde. Et la victoire définitive du bien sur le mal sera due, dans cette croyance de Zarathoustra, à quelqu'un qu'on appelle un allié, qui sera la vérité incarnée et qui naîtra d'une vierge qu'aucun homme n'aura approché. On voit le parallèle que l'on peut faire avec Jésus qui est le Verbe, la parole de Dieu incarné et qui va naître de la Vierge Marie. puisque les Juifs ont été en captivité à Babylone, peut-être que la pensée de cette religion et l'attente de cet allié a pu être influencée par l'espérance juive dans le Messie. Les mages ont peut-être joint, conjugué l'attente de l'allié et l'attente du Messie juif. Peut-être qu'il faut bien redire une fois de plus que rien n'indique que ce sont des rois, c'est des traditions beaucoup plus tardives qui diront cela. Ce qui importe ici, c'est que ce soit des étrangers et que ces étrangers soient en recherche de la vérité sur le monde et sur son histoire. Ce sont des étrangers et ils n'ont pas peur du risque et de l'inconnu.
Ils partent. Et voilà que l'étoile qu'ils ont vue à l'Orient les précède, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus du lieu où est le petit enfant.
Alors en face de ces mages, de ces étrangers qui prennent des risques, qui sont en mouvement, à l'inverse, le roi Hérode est inquiet, il reste sur place, et ce sont les mages qui vont se rendre à Bethléem pour y trouver cet enfant né d'une vierge.
Comment comprendre cette inquiétude d'Hérode?
Eh bien, la question que les mages posaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Cette question rejoint l'espérance des Juifs à l'époque de Jésus. En effet, beaucoup pensaient que le pays d'Israël, qui était occupé par l'armée romaine depuis près de 100 ans, eh bien, il fallait que Dieu choisisse un roi Messie pour libérer Israël. Il y aura d'ailleurs dans cette époque plusieurs leaders qui vont se présenter comme messie et qui enrôleront des militants. Pilate fera d'ailleurs périr sur la croix 2000 de ses militants. Et en l'an 70, cet espoir de libération va provoquer la grande insurrection juive qui va aboutir à la destruction du temple et à l'exil de la plupart des juifs de la terre de Palestine. Deux textes d'historiens romains parlent de cette espérance juive, écoutons-les. Écoutons d'abord d'ailleurs Tacite.
Beaucoup étaient persuadés de ce qui était dit dans les livres anciens des prêtres, à savoir qu'en ce temps, l'Orient devait exercer la suprématie et que des hommes venus de Judée devaient dominer le monde.
Voilà, Tacite suggère que cette prophétie biblique va non pas désigner des juifs, mais les empereurs romains eux-mêmes. Et maintenant, eh bien, écoutons Suétone, qui est un autre historien romain.
Dans tout l'Orient s'était répandue une ancienne croyance d'après laquelle des hommes venus de Judée domineraient le monde. Les Juifs, interprétant en leur faveur cet oracle, qui est en réalité se réfère à l'empereur romain Vespasien, se révoltèrent.
À la lumière des indications historiques, il me semble que l'on comprend mieux comment la visite des mages a pu provoquer l'inquiétude d'Hérode? Cet enfant ne viendrait-il pas, dans quelques années, susciter une insurrection populaire contre les Romains? Et comme Hérode tenait sa couronne de l'empereur de Rome, eh bien, il en est ébranlé.
Que pouvons-nous comprendre de cette étoile observée par les mages? Y a-t-il eu un phénomène astronomique?
Mais évoquons d'abord ce qu'en dit un astronome français contemporain, Jean-Paul Parizeau.
Dans ces civilisations, les mages, devins et astrologues formaient un groupe privilégié qui possédait des pouvoirs religieux et politiques. Ces mages étaient familiarisés à la fois avec l'aspect des constellations et avec les prophéties annonçant la venue du roi des Juifs. Ainsi, il n'est pas inconcevable qu'un phénomène astronomique interprété comme le précurseur de la venue du Messie, ait provoqué le déploiement d'une délégation vers la Palestine.
Oui, il y avait dans la pensée astrologique orientale comme une espèce d'association entre l'étoile et la royauté, et cela dans une constellation que l'on appelait la constellation du lion. L'important donc n'est pas savoir s'il y a eu un phénomène extraordinaire dans le ciel, mais de bien comprendre la symbolique. Et cette symbolique de l'étoile a un lien donc avec le roi. Donnons quelques exemples. Un midrash juif disait comment des astrologues avaient annoncé la naissance d'Abraham.
Ils ont vu une étoile se lever dans les cieux. Cela indique un enfant qui prendra possession du monde entier.
Voilà, en parlant du Messie, le testament de Lévi écrit « Son étoile se lèvera comme celle d'un roi ». L'étoile est donc le symbole de la naissance de quelqu'un qui est promu à un destin divin, comme celui par exemple de roi Messie, le roi consacré par Dieu. On peut dire d'ailleurs aussi que de nos jours, on dit encore de quelqu'un qu'il est né sous une bonne étoile pour indiquer qu'il a beaucoup de chance dans la vie.
Jésus est donc présenté par Matthieu comme le Messie que l'on attend, comme le Sauveur, le Libérateur attendu.
Oui, et dans ce récit de l'enfance, Matthieu va évoquer le drame qui va être celui de l'Évangile. Ce Libérateur va être rejeté par les autorités de Jérusalem. Jésus sera accueilli seulement par des gens humbles comme les bergers, par des marginaux, par des étrangers comme les mages.
Que découvrent les mages?
Eh bien, ils vont découvrir le petit enfant avec Marie sa mère et ils vont lui offrir des présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cette description est bien plausible puisque l'or, l'encens, la myrrhe sont des richesses et des parfums traditionnels de l'Arabie. Mais cela a pu être aussi influencé par des textes bibliques, par des traditions qui voulaient que, lorsque le Messie paraîtrait, les nations, c'est-à-dire les autres peuples, viendraient faire leur hommage et apporter leur offrande à ce roi Messie. Écoutons le texte d'Isaïe au chapitre 60.
Des multitudes de chameaux te couvriront, des dromadaires de Madian et d'Épha. Tous ceux de Saba viendront apportant de l'or et de l'encens et chantant les louanges du Seigneur.
Eh bien, cette reconnaissance de Jésus par des étrangers, par les mages, préfigure à la fois l'attitude que Jésus va avoir face aux païens et aussi l'entrée massive des gens de langue grecque, donc des païens, dans l'Église, dans la première Église après Pâques. Évoquons simplement la façon dont Jésus admire la foi d'un païen qui est un centurion romain.
En vérité, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux.
Et évoquons aussi le livre des Actes, où il va y avoir cette entrée presque imposée par l'Esprit Saint de païens dans la première Église avec l'histoire de Corneille. On se souvient que Pierre là, a des visions, on lui dit qu'il faut manger même les aliments impurs, et on l'envoie après chez Corneille, qui est une famille païenne, et l'Esprit de Dieu vient sur eux. Et évoquons aussi tous les conflits qu'il pourrait y avoir entre les chrétiens d'origine juive et ceux d'origine grecque, avec Saint Paul qui va être leur leader.
Comment comprendre que Jésus a été rejeté?
Eh bien, c'est qu'à l'époque de Jésus, et c'est encore peut-être encore comme cela maintenant, on attendait un Dieu dans la puissance, un Dieu dans la grandeur. Et la manière dont Dieu va venir en Jésus va dérouter beaucoup de ses compatriotes. De la même façon d'ailleurs que toute venue de Dieu en notre vie nous déroute encore. Posons-nous la question, quel visage de Dieu avons-nous? Dieu peut-il se révéler dans la petitesse, dans la nullité, dans le sans importance? Qui aurait prévu un Dieu qui naît, qui se fait homme? Et s'il se faisait homme, à qu'il naisse au moins dans un palais, mais pas dans une mangeoire? qui aurait prévu un Dieu qui meurt, ben, mourir comme un grand homme peut-être, mais pas sur une croix comme un malfaiteur, qui aurait prévu un Dieu qui ressuscite, à la fin des temps peut-être, mais pas tout de suite. Oui, Dieu nous déroute, car Dieu n'est pas le fruit de notre réflexion, de notre imagination. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. En effet, à sa naissance, pour venir l'accueillir en notre humanité, il n'y aura que de pauvres bergers et des mages qui sont des étrangers. Eh bien, le message de ce texte est toujours d'actualité. Ce ne sont pas ceux qui sont installés dans la foi en Dieu, qui savent le mieux reconnaître sa présence et son action dans le monde. De la même façon que beaucoup de membres du peuple d'Israël n'ont pas reconnu Dieu en Jésus, en cet humble Messie des humbles, né à Bethléem, paysan de Nazareth d'où rien ne sortait de bon, mort sur une croix parmi deux malfaiteurs, de même, encore nous, chrétiens, nous pouvons être aveugles sur sa présence. Est-ce que nous le sommes capables de le voir agissant dans ce bouddhiste, dans cette musulmane, dans cet incroyant? Est-ce que nous savons le découvrir dans ce quêteux qui nous gêne, dans ce punk qui nous insécurise? À la croix, Luc nous dit qu'un des malfaiteurs a reconnu Jésus et qu'il a reçu la promesse d'être avec lui pour toujours au paradis. À la croix, Matthieu nous rapporte que c'est encore un païen, un étranger, un centurion romain qui va s'écrier « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu ». Dieu parmi nous, l'Emmanuel, cela est encore vrai aujourd'hui. La finale de l'évangile de Matthieu va rapporter la promesse de Jésus « Et moi, je suis avec vous ». Pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Le croyons-nous vraiment? Le vivons-nous concrètement? Puissions-nous, comme les mages, le chercher, nous déplacer, le découvrir et l'accueillir dans le silence de l'amour pour nous mettre, comme lui, au service de nos sœurs et de nos frères.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous pouvez aussi utiliser notre numéro de télécopieur, le 256-1106. 256-1106. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous serons très contents de vous donner l'adresse exacte de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.